Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine de la bonne double soirée, puisque ça commence à 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast. Et puis ça revient comme une chanson populaire, mais à l'antenne, comme tout le monde, de 22h à minuit. Ce soir, une émission doublement masterclass avec Amos Gitaï, filmé au Moyen-Orient et son sujet, c'est le fil rouge de ses leçons au Collège de France. Un coffret DVD et un livre, La caméra est une sorte de fétiche, reviennent sur cet événement au programme des maisons, des villes, l'architecture, la guerre du Kippour et des souvenirs de famille. Amos Gitaï, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, lui aussi, il travaille les murs, les maisons et les lieux. Ernest Pignon Ernest est notre invité à quelques jours de son exposition Ecce Homo au Palais des Papes à Avignon. 400 œuvres pour une rétrospective qui couvre 60 ans d'art in situ. Pionnier, lanceur d'alerte, virtuose du dessin. Ernest Pignon Ernest, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le Énervé de la Suite ce soir, Coupe du Monde de foot, coup franc pour les femmes. Benoît Lagan.
Oui, à deux jours du premier match de la Coupe du Monde de football féminin qui se déroule en France et qui va avoir lieu donc vendredi, la France va s'opposer à la Corée du Sud. On parle foot féminin, combat, technique de jeu avec nos invités. Nadia Benmokhtar, consultante auprès du service des sports de Radio France pour la Coupe du Monde et ex-footballeuse. Jessica Ouara, idem ex-footballeuse et consultante, elle, pour Canal+. Marc Sauvourel, documentariste auteur de Lyon sur de jeunes footballeuses de Vénissieux. Et Vanessa Lemoigne, journaliste à beIN Sport.
Vous êtes enrhumé?
Oui.
Ça se soigne, vous
beaucoup.
Savez.
Beaucoup, j'essaie.
Très bien. Je compte pour demain. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Retour au Collège de France pour vous, Amos Gitaï. Bientôt le Palais des Papes pour vous, Ernest Pignon Ernest. Vous vous connaissez l'un et l'autre? Parce que vous avez pas mal de choses en commun, j'ai regardé les biographies. Vous vous connaissez un petit peu?
On s'est rencontrés chez un Pierre-Marc de Biasi.
Ouais,
qui est à la fois un artiste, un écrivain, un spécialiste de Flaubert, qui a écrit un livre sur mon travail.
Donc, autour de la nourriture, vous vous êtes rencontrés dans un dîner.
Pierre-Marc, c'est un vrai intello, et c'est toujours stimulant de dîner chez lui. Il amène toujours des gens qui posent des questions sur les textes, sur les, l'archive, etc. Alors,
et ça vous concerne, ça tous
oui,
les deux.
Oui, il y avait les gens de la médiologie. Un soir, nous avons dîné ensemble.
Ah ouais.
Il y avait Régis Debray, entre
ouais.
autres.
Vous avez en commun l'esprit des lieux, ce qui les anime, ce qui les hante. Premier lieu filmé important pour vous, Amos Gitaï. Vous en parlez d'ailleurs dans ses collèges, dans ses leçons au Collège de France. C'est vraiment cette maison à Jérusalem, une maison très précise à Jérusalem-Est. C'est le premier lieu que vous avez filmé.
C'est-à-dire, moi, je suis seulement architecte, comme vous savez.
Oui.
Alors,
formation d'architecte.
Oui.
Père architecte.
Père architecte, fils architecte.
Ouais.
Entouré de deux côtés par des architectes. Non, moi je trouvais que à la fin de mes études, comme j'ai fini mon doctorat à Berkeley, à Californie, dans l'architecture, j'ai fait un doctorat d'architecture, et je retournais dans mon pays natal, et j'ai décidé de faire un film. Le film était House, la maison.
Dans les années 80, au tout début des années 80.
Voilà.
83.
L'année prochaine, on va fêter 40 ans de ce
ouais.
film. C'est pour 40 ans de pas seulement marcher dans le désert, mais essayer de dire des choses à travers des films. Et je trouvais que c'est toujours le Moyen-Orient qui est très bombardé par des images transposées par des choses des fois mal dites. C'est très bien de faire une sorte de traitement des microcosmes, d'une sorte de métaphore, même comme on fait un film documentaire comme House. Et alors c'est mon premier film, il est sur une maison à Jérusalem-Ouest. Et la biographie de cette maison qui appartenait au génico palestinien, la famille Dajani, et après des familles Touboul d'Algérie, de Colombie-Char, et plus tard un prof d'économie israélien qui pour transformer cette maison d'un étage à trois étages amène
des ouvriers palestiniens, ouais.
Des camps de réfugiés, les pierres de Hébron. C'est-à-dire, c'est une sorte de microcosme dans laquelle juxtapose des séries de fragments de biographies. À travers de cette biographie, on raconte l'histoire de cette maison et ce conflit en même temps.
Et ce conflit en même temps. Et puis, on en parlera tout à l'heure. Ce film a été en partie censuré. On en parlera. Vous, premier lieu sur lequel vous êtes intervenu, Ernest Pignon Ernest.
C'est le plateau d'Albion.
Eh ben voilà.
C'est le plateau d'Albion.
Retour du côté d'Avignon. Ouais.
Près d'Avignon, dans le Vaucluse. Ouais.
Ouais, dans les années 60.
Ouais, ouais. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez fait comme action?
Ben, c'est-à-dire
pour quelle raison, d'ailleurs?
Il faut que je le resitue
un
oui.
peu.
Il faut que je situe un peu. J'avais gagné un peu d'argent en faisant les plans de la maison d'un dentiste.
Oui, parce que lui aussi, il travaillait dans des cabinets d'architectes.
Ouais, mais moi, je suis rentré à 15 ans, quoi.
Ah ouais.
À 15 ans, j'avais l'obligation de travailler. Et au lieu d'aller dans l'usine d'un oncle où t'allais, mon frère serrurier, j'ai démarché tout l'été des architectes de la Côte d'Azur. J'ai vécu à Nice avec mes dessins. Et il y en a un peu étonnant qui m'a engagé j'avais 15 ans et demi. Et donc, j'ai travaillé jusqu'à ce que je parte au service militaire dans ce bureau d'architecture. Ouais. J'étais passionné, hein. J'étais abonné à Architecture d'aujourd'hui. Je lisais tous les articles, Marcel Cornu, Henri Lefebvre. J'étais passionné par tout ça. Et donc, j'ai pu, à un moment, on pouvait faire des permis de construire sans être architecte. J'ai pu, avec un copain, faire le permis pour un dentiste, une énorme villa. Et on a décidé qu'il suivrait le chantier et que pendant un an, il m'envoyait mes honoraires. Donc, je me suis dit, ça y est, pour une fois, je vais pouvoir me consacrer à la peinture. Parce que mon objectif, dès que j'ai vu que j'étais pas assez bon au foot, c'était d'être peintre. Donc, je suis allé m'installer dans le Vaucluse parce que le Vaucluse, c'est une terre un peu mythique. J'étais allé en Toscane l'année précédente, et pour moi, c'était un peu la Toscane. Vous voyez, c'est le Mont Ventoux, René Char. Et donc, je suis parti vers là-bas, vers le Vaucluse, dans cette perspective d'un Vaucluse un peu mythique, avec Pétrarque et tout ça.
Oui, mais le réel.
Voilà.
Et est revenu.
J'ai loué un ancien café, pour atelier. Et puis, donc, je m'installe. J'étais arrivé, j'avais acheté une camionnette, des rouleaux de toile, de la peinture. Je voulais faire de la peinture. Moi, ma référence, c'est Picasso, quoi. Ouais. Vous voyez, donc, je voulais faire de la peinture. Et j'apprends qu'à 30 km de là s'installe la force de frappe atomique. Les sillots, vous voyez, 17 sillots, 1000 fois Hiroshima enfouis quasiment sous les champs de lavande, quoi, ou sur les amandiers. Je me mets à travailler là-dessus, sur cette idée-là, et je constate que je peux pas faire un tableau qui exprime cette violence, cette espèce de contradiction terrible entre la beauté de cette terre et sa force symbolique et cette puissance de mort enquistée là-dessous. Vous voyez, donc, je veux dire, comme c'était impossible à le figurer.
Donc il fallait intervenir sur les lieux.
J'ai mis longtemps, j'ai piétiné, j'ai essayé de faire des peintures. Bon, je savais déjà que je ferais pas Guernica, hein. voyez donc. Et ça imposait cette idée que c'était les lieux eux-mêmes qui étaient porteurs de cette contradiction, de cette violence, de ce drame, hein. Et, ouais, peu à peu, je me suis convaincu que c'était les lieux eux-mêmes qu'il fallait stigmatiser. Comme je réunis toujours beaucoup de documents, j'avais trouvé cette photo que tout le monde connaît, je crois, qui est une photo qui a été provoquée par l'éclair nucléaire d'Hiroshima, qui a décomposé un homme dont il ne reste plus que son ombre portée. Le mur est brûlé et il n'y a plus que sa silhouette noire et une échelle sur le mur. À partir de cette image qui me semblait être comme une alerte, j'ai fait un pochoir que j'ai implanté comme ça sur les rochers, sur les routes, sur les quelques maisons qu'il y a vers là-haut, quoi, comme une alerte, voilà. Donc la première fois que je prenais les lieux eux-mêmes comme matériaux poétiques, dramatiques, plastiques, quoi.
C'est à peu près la même chose que vous réalisez, vous, du côté de la caméra, Amos Gitaï. Alors Amos Gitaï est sorti en coffret de 5 DVD de vos leçons et colloques au Collège de France, sous le titre « Traverser les frontières ». Et puis un livre, « La caméra est un fétiche », on va y revenir. Vous étiez en 2018, c'était donc l'année dernière, le premier cinéaste nommé à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. Vous ne vous êtes pas dit, ils ont mis du temps à faire entrer un cinéaste?
Écoute, moi j'étais...
Comme si le cinéma était vraiment un art mineur ou quoi?
Moi je trouvais que c'est un grand compliment.
Ah bah pour vous, oui! D'être le premier, mais quand même!
Parce que comme vous savez, François Ier, il a créé le Collège de France en 1530. Et alors depuis 1530, finalement, il y a... D'ailleurs, au XVIe siècle, c'est pas sûr qu'ils ont acquis beaucoup de cinéastes.
Mais... Non. Mais quand même, depuis, il y avait matière de faire entrer des cinéastes. Et vous avez été le premier. Vous travaillez donc lors de ces leçons sur votre parcours et notamment le cinéma documentaire. Juste une question à Amos Gitaï. On va parler aussi d'Avignon. Donc, vous l'avez compris avec Ernest Pignon-Ernest. Vous connaissez bien Avignon. Vous y aviez proposé une pièce.
Non, on a fait l'ouverture de
Palais des Papes.
2009 avec Jeanne Moreau sur le texte de Flavius Joseph, La guerre des fils de lumière contre le fils des ténèbres, c'est-à-dire cet historien romain qui nous raconte la destruction de Jérusalem par Rome, c'est-à-dire cette bataille, on peut dire, idéologique que l'Empire Rome décide d'écraser une idéologie rivale. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui m'a intéressé toujours, parce que comme on promène dans le forum de Rome, le seul arc de triomphe conséquent, c'est sur cette victoire. Et comme on sait très bien, cette morceau de terre n'est pas énorme. Alors effectivement, pour les Romains, de détruire Jérusalem et l'idéologie monothéiste, on peut dire, oui, c'était un projet qui méritait un arc de triomphe, qui effectivement, c'est le début de diaspora juive, parce que les Juifs étaient exportés à Europe comme esclaves, le début du christianisme européen. Alors effectivement, cet texte de Josephus, qui est un très, très grand historien, était la base de ce spectacle qui était à la carrière de Bourbon en 2009 avec Jean Moreau comme Flavius Joseph.
Mm-hmm. Et 2016,
2016
Palais des Papes, cour d'honneur.
Palais des Papes, cour d'honneur. Chronique d'un assassinat dédié à l'assassinat de Yitzhak Rabin, que l'année prochaine on va marquer 25 ans, ouais, de cet événement. Et cette année, c'est-à-dire en octobre 2018, on a fait une version à la Philharmonie avec Barbara Hendrix. C'est un sujet que, c'est-à-dire, je trouve que en sens plus général, le spectacle, et d'ailleurs c'était le sujet du Collège de France, des spectacles, le cinéma, la littérature, elle doit engager avec le contexte. Elle doit faire une sorte d'interprétation, pas d'une façon didactique, mais elle doit prendre comme un paramètre, comment on parle d'événements de histoire il y a 2000 ans et l'histoire contemporaine. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on va rejouer cette pièce d'assassinat de Rabin.
Vous avez signé une affiche pour le Palais des Papes, pour le Festival d'Avignon?
J'ai fait l'affiche du Festival d'Avignon, je crois, pour les 50 ans, oui.
Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous aviez représenté?
Je vais vous dire qu'ils avaient pas voulu mon affiche. J'avais fait, comme c'était les 50 ans, ouais, j'avais fait un masque de Janus qui voulait pas se tourner vers le passé, vers l'avenir. Ouais. Et Fèvre Darcier, qui était directeur à ce moment-là, a trouvé l'affiche trop violente. Trop violente, et quand il est venu dans mon atelier, il m'a dit, on m'a dit que tu fais des trucs trop dramatiques. Et j'ai dit, mais écoute, c'est pas un festival d'art dramatique. Enfin, et finalement, il a trouvé que c'était trop dur. Et à ce moment-là, je travaillais sur Naples. J'étais en train de dessiner une femme qui tient un drap, ou un linceul. Uh-huh. Et j'ai fait l'affiche avec la main qui tient un drap, qui devenait un peu, à la fois la nuit, le rideau de théâtre, et une présence humaine, quoi, voilà. Ouais. Mais j'ai,
ouais, ouais. Ouais, donc au début, une censure pour ensuite pouvoir...
C'était pas vraiment une censure,
ouais,
c'était
ans, voilà, ouais, un décalage. Alors vous avez demandé à tous les deux des sons pour faire plus amplement connaissance. On commence par vous, Ernest Pignot-Ernest, l'Italie bien sûr. Ambiance italienne, pour quelle raison? Je m'en doute un peu.
C'est la rue de Naples,
bah, oui,
ce sont les rues de Naples. Moi, je suis de Nice, hein. Je dors chez mes cousins, quoi. J'ai hésité même. Je voulais vous prendre un marché de Nice avec des gens qui vendent le poisson niçois, quoi. La belle à poutine, hein, des choses comme ça. Mais comme j'ai travaillé plusieurs années sur Naples et que la rue de Naples, c'est plus que la rue de Naples, quoi. Vous voyez, quand on marche dans cette rue, la leçon qui est là, c'est Via Tribunali. Je viens d'exposer dans l'Hypogée de l'église des âmes du purgatoire, là. L'expo s'est démonté il y a une semaine. On circule dans cette rue, on circule dans 2000 ans d'histoire, quoi. Mmh. Vous voyez, il y a des murs qui ont été construits par les Espagnols. Le soubassement est fait avec des chutes de monuments grecs. Le reste du mur avec des briques romaines. Et c'est les Espagnols qui ont monté ça au 17e, 18e. Voilà. Donc, ces rues de Naples, c'est à la fois une sensualité, des odeurs, des couleurs, Caravage, parce que les rues de Naples, c'est une espèce de lutte perpétuelle entre les ténèbres, parce que Naples était la plus grande ville d'Europe, hein, au 17e. Mmh. Il y a des immeubles qui font 25 mètres de haut, des rues très étroites, et en même temps, c'est la ville presque la plus ensoleillée. Et il y a ce combat en permanence qui dit à la fois cette menace qui traverse Naples. Vous voyez, Naples, on a ce sentiment que Le sacré vient du sous-sol, quoi, vous voyez. Et il y a cette lumière intense et cette obscurité des rues, les basses et tout ça. Donc, c'est une grande sensualité, voilà.
Et enfin, un jeu très midi pour vous, Ernest Pignot-Ernest.
Oh, dis donc, il y aura la roche-voyette. Bien, Philippe, bien.
Bon, on l'aura compris, un jeu de pétanque. Vous étiez bon, c'est
ouais,
quoi l'histoire?
Ouais. Mon père a été champion de France. Ouais. Et j'ai passé toute mon enfance sur le plus grand jeu de boules de Nice. Parce que l'entrée de l'école était sur le jeu de boules. Ouais. Et ça a été, ouais. Mon père travaillait aux abattoirs. Et donc, la nuit, il était aux abattoirs. Et toutes ses journées, pratiquement, il était sur le jeu de boules. Et ça, c'est un lieu culturel très très fort à Nice. Vraiment, j'ai vu. Il y a des types qui ont été champions du monde, quoi. Vous voyez, je les ai vus jouer. C'était comme si on voyait jouer Borg ou.
Ah ouais, je vois la comparaison.
Voilà. Bah oui, voilà. Et donc, vraiment... c'est une présence. Et puis, il se trouve que les dernières années, après j'avais un peu rompu parce que c'était tellement l'image de mon père que je détestais ça, quoi. Comme mon père rentrait pas à la maison parce qu'il allait jouer au boule tous les dimanches. Et puis j'ai repris il y a quelques années en Ardèche parce que j'étais très ami de Jean Ferrat. Ouais. J'étais très ami avec Jean Ferrat.
Ils vous ont donné d'ailleurs son jeu de boule,
et voilà,
hein, c'est ça.
Et quand il est mort, Colette, sa femme, m'a offert ses boules en me disant t'as tellement joué avec lui. Donc je joue maintenant avec les boules de Jean Ferrat que j'aimais beaucoup. Quoi.
Très bien.
Un personnage que j'aimais beaucoup.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard, sur France Inter. Baby, I know pain is as natural as the rain. I just thought it didn't rain in California. Baby, I know love isn't what I thought it was. Cause I never known a love like this before. Oh. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ. Am I good for nothing?
This Life, un extrait de Favour of the Bride, le dernier album de Vampire Weekend.
Le nouveau rendez-vous.
Rendez-vous.
Laurent Goumard.
Amos Gitaï est notre invité ce soir avec Ernest Pignon. Ernest, Amos Gitaï, retour sur 2018, sur vos cours, leçons et colloques au Collège de France avec la sortie de ce coffret DVD, Traverser les frontières, et de ce livre, La caméra est une sorte de fétiche. Un bon souvenir, j'imagine, ces leçons au Collège de France. Il y avait une foule énorme. Moi, que je suis arrivé à l'heure, j'étais quand même debout derrière tout le monde. Taubira était pas très loin, debout elle aussi.
Non, écoute, ça m'a impressionné, oui.
Ouais, c'était super.
C'est ma fille qui m'a expliqué qu'est-ce que c'est le Collège de France.
Ah oui, vous ne saviez pas
elle
avant.
Elle m'a dit, il faut que tu travailles vraiment.
Ah bah oui, surtout que c'est...
Alors ça m'a pris trois mois complètes.
Bah oui, parce qu'il y a plusieurs séances, il y a neuf séances à peu près, c'est ça. Et puis il faut te dire quand même sur la distance. Ouais.
Oui, c'était intéressant. J'ai décidé de faire comme une sorte de speech, c'est-à-dire pas lire le texte d'une façon un peu sec, et aussi d'intégrer des extraits, alors... Et mon ami Laurent Truchot, il était là pour choisir le fragment, etc. Non, je trouvais que c'était, vous savez, c'est-à-dire d'être prof ou d'enseigner, c'est intéressant parce qu'on partage des idées. Et aussi, ça nous aide de faire en synthèse, quand même, l'année prochaine, 40 ans que j'ai fait des films. Alors c'est un timing parfait
pour pouvoir commencer à comprendre et de faire la rétrospective d'une année sur l'autre.
Tout à fait. Et les choses que je trouvais assez émouvantes, c'est-à-dire comme on rentre à la Collège de France, il y a un petit plaque qui dit que François Ier, en 1530, qui veut que le knowledge va être pas strictement dans les mains des religieux, mais aussi, c'est-à-dire il a créé le Collège de France. Et là, il a nommé 6 experts, dès un grec, un mathématique et 3, imagine-toi, un hébreu.
Un hébreu. Ah, vous avez découvert ça?
Oui, alors, à la limite, je peux faire mon, j'avais le moyen de faire mes séries de conférences en hébreu, mais comme un acte amical, je fais quand même dans le dialecte indigène.
Vous êtes bien aimable, Amos Gitaï. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cours, et notamment dans le livre, la première chose que vous citez de votre parcours de cinéaste, c'est Homme. On en a parlé tout à l'heure, dans les années 80, vous filmez une maison à Jérusalem qui a appartenu à une famille de médecins palestiniens. Plus tard, le gouvernement israélien y a installé des juifs immigrants originaires d'Algérie. Et quand vous filmez la maison, elle appartient à un économiste réputé qui veut transformer cette maison d'un étage en une ville. Il a 2-3 étages et il fait appel à des ouvriers palestiniens. Or, ce film, c'est quand même le premier, alors là, coup de bol ou coup de chance, ou coup de malchance, il a été censuré. Pour quelle raison?
Écoute, je trouve que dans cette époque-là, on parle de fin d'année 70, effectivement il y a 40 ans, les gens pensent que s'ils ne vont pas parler de mémoire et d'attachement des Palestiniens à cette même terre, ça va disparaître, ça va évaporer.
Et je trouve que comme si le fait de ne pas en parler, ça n'existait plus, c'est ça hein?
Oui, voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé, c'est-à-dire les frères rivaux, ils sont au courant que les autres ne vont pas partir, mais en contradiction, on est beaucoup plus faible sur les possibilités politiques de résoudre ce conflit. C'est-à-dire, à la fois, il y a un niveau de conscience plus évalué, mais un niveau de capacité d'action politique beaucoup plus faible. Et le cinéma, il ne peut pas transformer le réel de façon directe. Moi, je ne suis pas pour un cinéma indoctrinaire ou didactique, mais il faut qu'il pose des questions, il faut qu'il humanise les autres. Il faut que, de toute façon...
Et donc là, il humanisait les autres, c'est-à-dire les Palestiniens. C'est ça qui a dérangé le gouvernement israélien à l'époque?
C'est-à-dire, il y a un ouvrier palestinien qui même l'utilisation de la langue est très poétique, très sophistiquée, et ça menace une sorte de préconception de nous, qui est le plus sophistiqué que l'autre. Tu vois. Alors il y a des éléments qui sont directs, qui dérangent l'esprit tendre de la nation, et des choses souterraines que je trouve que des fois ils sont plus efficaces, ils posent plus de questions. Et je trouve que dans le cinéma, il faut accueillir celui-là. C'est-à-dire, moi je suis pas pour un cinéma style Michael Moore qui avec des démarches démagogiques appuyées. Et c'est parce que si je vois un film comme ça, je commence à poser des questions pour les idées qu'a priori je suis pour. Mais j'aime pas être nourri par la force. Alors il faut que le cinéma trouve un moyen à la fois d'évoquer des idées, mais pas d'une façon, il faut utiliser le potentiel poétique, la sonorité, l'espace aussi, comme je parle d'espace, c'est-à-dire il y a des questions de rythme, parce que les news, les radios, la télé, c'est toujours Speedy Gonzalez. Monté, coupé, etc. Et là, le cinéma, il a le moyen d'installer un espace sonore, un espace de visionnage d'images qui va questionner par les rythmes. Le rythme, c'est aussi un aspect on peut dire même subversif de découvrir quelque chose.
Et c'est pour ça que vous travaillez, le plan séquence et tout ça. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quand même toujours plus difficile de pouvoir assumer un tel cinéma vu ce que demandent les producteurs, la rapidité de l'histoire qui doit être racontée. Vous avez des problèmes pour monter vos films aujourd'hui à Moscou?
C'est vrai, mais vous savez, comme j'arrive de la tradition juive, je suis pour les cultures minoritaires. Les juifs, ils sont jamais été majoritaires. C'est le seul monothéiste qui ne veut pas convertir l'autre. Alors, c'est un galère de devenir juif, même. Alors, c'est-à-dire, ils ont eu une idée de minoritaire, mais quand même, ils ont eu un impact sur l'histoire humaine. Et aujourd'hui, les gens, et même mes chers compatriotes, ils veulent tout le box-office, Audimat, des choses comme ça. Il faut continuer aussi de dire des choses d'une façon stable et calme. Et je crois que cette démarche, il a sa propre impact. Là, je reviens des États-Unis, où on a montré un court-métrage qui était aussi présenté à Venise. A Letter to a Friend in Gaza. C'est une chose que déjà les titres dérangent beaucoup, mais c'est une sorte de paraphrase des textes d'Albert Camus de, il y a 75 ans.
Lettre à un ami allemand.
Voilà. Et cette spectacle était à Spoleto USA, un grand festival de théâtre en Amérique, qui va être aussi à Paris, qui va ouvrir les saisons au Théâtre de la Ville tout à l'heure.
L'année prochaine.
Septembre, oui. Septembre, non, cette année.
Oui, oui, bah, oui. Ouais. À la rentrée, quoi. À la rentrée,
ouais,
de septembre.
Tout à fait.
Je voudrais
juste
rebondir sur une expression que vous venez d'avoir. C'est mes chers compatriotes, en parlant donc des Israéliens. C'est bizarre parce que dans le livre, à un moment donné, cette expression revient. Elle me revient aussi à l'esprit.
Ouais.
Mes chers compatriotes, c'est-à-dire, bah, dans ces années-là, dans les années 80, ils vous demandent d'aller plutôt partir travailler ailleurs. C'est-à-dire, c'était impossible pour vous de rester travailler et d'être cinéaste en Israël dans les années 80.
Oui,
mais c'est pour ça que vous êtes arrivé à Paris.
Oui, oui, mais je suis très heureux d'être parmi vous aussi.
Grâce à vos chers compatriotes.
Mes chers compatriotes, aussi, j'étais dans un hélicoptère de sauvetage qui était battu par les Syriens. Et je suis aussi également content d'être parmi vous. Mais je trouve, tu sais, des rapports d'artistes ou de cinéastes, etc., avec leur patrie, il ne doit jamais intoxiquer ce rapport. C'est-à-dire, il faut être critique, il faut même être sévère, il faut être strict si on sent que notre patrie, notre lien de naissance, il dérive, et c'est mon sentiment actuel avec le régime israélien actuel qui utilise des discours racistes, qui fait des démarches qui vont détruire des tissus de coexistence. Mais en même temps, il faut garder le lien, parce que c'est la source d'inspiration. C'est aussi une culture qui m'intéresse. Alors, je continue à l'appeler mes chers compatriotes, même si des fois, ils sont même pas contents des choses que j'ai en train de dire.
Souvent pas contents, d'ailleurs, j'ai pu lire. Juste une question, Ernest Mignon. Ernest, vous êtes intervenu, vous, en Israël ou en Palestine, avec vos dessins?
En Palestine, ça, c'est un jour, Olivier Pi m'appelle, il me dit, écoute, il y a Mahmoud Darwish chez moi, il décolle pas de tes livres. Ça fait toute la matinée, hier soir et tout ça. Il voudrait te rencontrer. Alors j'ai dit, bah, moi je suis allé l'écouter quand il était à l'Odéon, je suis allé l'écouter à la Maison de la Poésie. Je crois que j'ai presque tous ses recueils de poèmes, mais je connaissais pas. Donc Darwish est venu chez moi, à mon atelier. Et, au passage, Olivier Pi est allé chercher Aïla Sambar, qui est son traducteur.
Ouais.
Ils sont venus chez moi. Et au fond, Darwish m'a dit, avec ce que tu fais, tu devrais venir travailler à Ramallah avec moi. Voilà. Donc,
et qu'est-ce que vous avez fait dans les rues de Ramallah?
Donc, je lui dis oui, on prévoit ça. Ouais. Et puis, il est mort entre temps. Et dans mon atelier, c'est pour vous dire pourquoi j'ai fait l'image que j'ai faite. Dans mon atelier, il découvre, j'ai fait dans les années 70 une image de Rimbaud.
Que j'ai collé
de Charlie. Elle est dans 200 bouquins. Elle est devenue une image un peu icône.
Qui
comme
vous
ça.
Colle à la peau,
Et Darwish me dit, c'est toi qui as fait ça? Dans mon atelier, il me dit, c'est toi qui as fait ça? Mais tout le monde connaît cette image, tout ça. Et j'avais donc collé l'image de Rimbaud, ouais, de Charleville à Paris sur les routes et tout ça. Et je me suis trouvé à Ramallah sans Darwish. Donc, et j'ai fait la même chose pour lui. J'ai fait une image, comme s'il était, vous savez, il disait, comme si j'étais joyeux, je suis revenu. Il y a beaucoup de textes où il dit je suis revenu, je ne suis pas revenu. Il incarne tellement l'exil de son peuple et tout ça. Donc je fais cette image de lui et je pourrais essayer de. J'ai mieux compris un parti pris de mes dessins en le dessinant lui. J'ai toujours la piste, vous savez, je fais des images grandeur nature, noire et blanche. En essayant qu'il n'y ait pas un style, que ce soit assez rigoureux, mais grandeur nature, assez réaliste, avec aussi une distance. Et mon idée, c'est, mon rêve, ça serait que mes images soient perçues comme des empreintes, vous voyez. Parce que dans l'idée de l'empreinte, il y a cette dimension dialectique qui a eu quelqu'un et qu'il n'y ait plus, quoi. L'empreinte dit à la fois une présence et une absence, comme un pas dans le sable, quoi. Et voilà. Donc, j'ai fait cette image de Darwish que j'ai pu coller de Ramallah jusqu'à Gaza. À Gaza, on m'a pas laissé rentrer, mais je l'ai causé par Skype avec des artistes de Gaza qui me disaient, on le met là, on le met où? Voilà.
Ah ouais, vous l'avez fait donc par transition. En parlant de ville, tout à l'heure on parlait du fait que votre père était architecte, que vous-même vous avez une formation d'architecte. Pourquoi alors va basculer du côté de la caméra? C'est lié, j'ai pu lire, à la guerre du Kippour, c'est-à-dire en 73, ouais, vous êtes engagé.
Si, parce que mon père était, comme on a parlé de la peinture, il était élève de Bauhaus, mon père, élève aussi de Kandinsky, de Mies van der Rohe et des autres modernistes.
Mais ça, vous l'avez découvert sur le tard, hein? Vous en avez pas parlé tout de suite?
Il m'a pas parlé tout de suite parce qu'il m'a amené surtout sur les chantiers de construction et j'ai vu comment il parle avec les menuisiers et ça m'a donné beaucoup d'idées comment il faut parler aux équipes de cinéma parce que c'est une sorte d'édifice qu'il n'y a pas seulement les cinéastes ou l'architecte, c'est-à-dire il faut mobiliser, inspirer, être en dialogue avec tout le monde. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est aussi un travail collectif dans lequel les ingénieurs de son, même les chauffeurs, même la nourriture, même, et même, je me souviens même, par exemple, comme j'ai fait le film Kippour, il y avait une fille japonaise qui était stagiaire, qui elle a fait des choses qu'on appelle water girl, c'est-à-dire elle servit the water.
L'eau.
De l'eau, dans les tournages, mais elle a coupé les pommes. Et d'une façon tellement élégante, comme on était tout dans le but, dans les, une sorte de climat dégueulasse, et ça amène toujours un sourire, alors ça amène les gens dans un bon mood. Alors cette petite détail, c'est une vraie contribution à cette, on peut dire, projet commun. Et je trouve que tout cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois l'architecture, l'histoire familiale, les lettres de ma mère qui étaient également publiées chez Gallimard, lues par Jeanne Moreau, et aussi l'aspect de Moyen-Orient, qui est une région extrêmement intense et riche, et aussi les drames, les volcanos, cette éruption, chaque plusieurs années, il y a des conflits directs, et de mériter un médium un peu plus direct que l'architecture, le cinéma, qui est devenu mon métier, c'est-à-dire il était une façon que je peux dialoguer avec cette expérience.
Tout en vous tenant à distance, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire la caméra pour vous, c'est être sur le terrain, mais en étant en fait invisible, en étant à distance. Pourquoi fallait-il, Amos Gitaï, que dans votre vie vous teniez à distance des autres, à distance de la société israélienne?
Je suis assez proche à vous.
Ah oui, on est tout à côté,
voilà.
Mais vous n'avez pas de caméra.
Non, moi je parlais des caméras pendant la guerre de Kippour, j'ai fait pendant la guerre même, j'ai fait des petits films Super 8. Et maintenant, d'une façon rétroactive, j'ai dit que peut-être ça m'a sauvé ma vie dans le sens, pas physiquement, mais j'étais dans cette situation de guerre.
Vous étiez dans la guerre, oui, mais...
Mais j'étais envie d'articuler les choses, de filmer les choses que j'étais en train c'est-à-dire que j'ai vécu. Et les caméras ont créé cette distance nécessaire, c'est-à-dire cette dualité. Je trouve que de toute façon, si j'ai avec les caméras, je suis trop proche à l'objet, il devient flou. Alors il faut un peu de distance, il faut un peu de perspective. Même cette conflit tout puissant qui excite tout le monde, il a besoin d'un peu de perspective, de structure, de pas aller dans les incitations contre les uns ou les autres pour effectivement avancer, parce que aussi c'est une façon de créer un dialogue, c'est pas strictement une lance d'accusations contre un des autres. Et de toute façon, vis-à-vis de ce conflit, c'est pas une division entre des gens angéliques et des salopards, c'est-à-dire ils sont tous les deux, et peut-être dans dose différente, dans phase historique différente, mais il faut que les deux sortent de leur niche et trouver un modus vivendi vivable. Et je trouve que c'est vrai que là, l'émission est plus lourde sur le côté israélien, parce que c'est Israël qui occupe le territoire palestinien, mais ça mérite des vrais efforts des deux côtés pour avancer.
C'est ce qui est avancé justement dans vos leçons. Traverser la frontière, c'est sorti en coffret 5 DVD que vous venez de découvrir et vous les avez admirés sous nos yeux aux éditions Vidéo Épicentre. Et puis le livre La caméra est un fétiche aux éditions Fayard, Collège de France. Vous restez avec nous. On va parler peinture, on va parler dessin et encore architecture avec Ernest Pignon. Ernest, tout de suite, je vous propose d'écouter une femme qui a posé ses valises à Paris pour écrire et chanter en français. Keren Ann prend des couleurs bleues.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche, je veux pas laisser ce regard bleu. Nul ne voit le grand soleil qui fait briller dès le réveil ce regard bleu, bleu merveilleux, bleu amoureux qui n'ose guère.
Les bleus à l'âme de Kerenan, la programmation Pantone de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Un orage, mais de la musique aussi, pour ouvrir ce plateau avec vous, Annès Pignon-Ernest. Qu'est-ce qu'on entend?
Là, c'est la mer. Ouais. La mer. Moi, j'y ai passé, vous savez, j'habite près du port. Hein. J'habitais près du port à Nice et je taillais l'école pour aller sur les rochers, les galets. C'est les galets.
Plus que la mer, c'est aussi un album de Luc Ferrari, l'album Presque Rien, en 77. C'est vous qui signez la pochette.
Oui, j'avais fait Presque Rien, vous avez vu, j'avais dessiné un nombril.
Un nombril, ouais.
J'ai dit Presque Rien, mais tout départ vient de là. Oui, j'avais participé à un ballet avec lui. Voilà. Et j'étais très intéressé par sa recherche sur le son, là. À la question que vous me posiez sur le son.
Bah oui, au début, on vous a demandé des sons à chacun, et vous m'avez dit, ouais, le son, c'est un peu plus compliqué pour moi. Moi, je suis plus du côté.
Je pense toujours des images. Je me suis rendu compte que j'avais du mal. J'ai ramé un peu à trouver des sons.
Alors, Ernest Pignon-Ernest, Ecce Homo, l'exposition, ça commencera le 29 juin à la Grande Chapelle au Palais des Papes à Avignon. Une rétrospective de plus de 400 œuvres, dessins, photos, collages, des années 60 à nos jours. On va en parler. Mais là, vous revenez d'Haïti. Qu'est-ce que vous y avez fait?
Ben, j'ai amorcé un nouveau travail, des collages, hein, comme je fais d'habitude.
Ouais. Dans les rues, sur des bâtiments.
Oui, dans les rues de Port-au-Prince, ouais. Inspiré, j'aimerais donner une résonance plus grande à l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, que j'ai découvert, peu de gens connaissent.
Ah ben, je peux vous le garantir, moi non plus, je ne connaissais pas.
Il faut le lire.
Amos Guitaï, vous connaissez?
Non plus.
C'est un écrivain extraordinaire, haïtien, qui est venu faire des études en France, qui devient un neurologue, pendant qu'il fait ses études de médecine en France, en cousant des chapeaux pour gagner sa vie. Il publie 4 romans chez Gallimard. Et alors qu'il est tranquille, médecin à Paris, il va rencontrer Ho Chi Minh, Mao Tse-Tung, Castro Guevara, et il essaie d'organiser une guérilla contre Duvalier. et il part de Cuba et semble-t-il il a été trahi. Il est accueilli probablement par les tontons Macoute, exécuté, torturé, et on ne sait pas ce qu'on corps est devenu. Voilà. Et je prenais cette image. Vous savez, je saisis souvent les images des poètes comme s'ils incarnent leur temps, leur pays, les contradictions. J'ai beaucoup travaillé sur Pasolini. Pasolini, c'est l'Italie du siècle dernier, quoi.
Et donc, à Étype, quelle image de ce poète?
Et là, je voudrais travailler sur cette image de ce personnage, Jacques-Stéphane Alexis. Je suis parti d'une image de Charlemagne Peralte, qui est l'homme qui menait le combat contre l'occupation américaine au début du XXe siècle, que les Américains ont exécuté et cloué sur une porte. Et fait circuler l'image partout. Donc je suis parti de cette image-là, du corps exécuté, exhibé. Ils ont diffusé des milliers de photos où ils l'ont installé dans Port-au-Prince. C'est une image terrible, qui est un mélange entre le Christ et la mort de Guevara, vous voyez, pour les icônes que nous connaissons. Et puis je voudrais amener peu à peu des images de Jacques-Stéphane Alexis, en m'appuyant à la fois sur les lois, sur des images du vaudou, puisqu'il y a un loi, un esprit des portes. J'ai travaillé sur cette idée des portes. Et à partir d'un texte de Lionel Trouillot, parce que c'est Lionel Trouillot qui m'a fait découvrir.
Qui vous a fait découvrir,
Jacques-Stéphane Alexis. Voilà, Lionel Trouillot, il dit, je rêve encore de maisons aux portes ouvertes. Et il est parti sur un texte de Jacques-Stéphane Alexis qui s'appelle La belle amour humaine.
Alors, d'Haïti à la Grande Chapelle à Avignon, j'imagine que le voyage c'est quelque chose, surtout que la Grande Chapelle à Avignon c'est pas un lieu facile pour l'exposition.
Non, c'est ingrat, à propos d'architecture. Alors là, 52 mètres par 15, vous voyez, ça fait comme un couloir. 16 mètres de haut, c'est très dur. Des fenêtres de 12 mètres de haut aussi, c'est très difficile. Ben, j'ai conçu, je crois, une espèce de circulation qui permettra de découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans la salle les œuvres, comme vous avez dit, sur une cinquantaine d'années.
La première œuvre, l'œuvre qui va ouvrir cette exposition, c'est laquelle?
Ben, je vais citer la fameuse photo d'Hiroshima.
D'accord.
Voilà.
Qui était à la base de tout.
Je vais mettre deux, trois dessins que j'ai faits lorsque j'étais militaire en Algérie, en 60, 61. Parce que je rêvais toujours de la Pietà d'Avignon. Je n'avais pas de reproduction, mais j'étais allé la voir. Et donc, j'ai deux, trois dessins de la Pietà d'Avignon. Et un dessin que j'ai fait en Algérie comme militaire, inspiré de Guernica, le taureau de Guernica.
Ecce Homo, ça veut dire quoi comme titre pour vous? Qu'est-ce que ça représente comme titre?
Ben, j'ai, au fond, tout mon travail, c'est ça. J'ai l'impression quelquefois d'en avoir fait que des piétas. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on inflige aux hommes. Et c'est un peu... Et voici l'homme, quoi. Je me trouve dans une chapelle et c'est ça.
Pour vous, Ecce Homo, qu'est-ce que ça représente comme titre? Amos Gitaï, ça voudrait dire quoi?
Non, moi, je pense que je vais rater mon rendez-vous à Arte.
Ah, vous avez un rendez-vous à Arte pour pouvoir financer
l'argent.
Votre cinéma.
Voilà.
Oh, ben alors, je vous laisse filer,
c'est
Amos
gentil.
Gitaï.
Merci
à vous.
C'était un plaisir.
Merci.
Voilà.
On continue tout de suite avec Ernest Pignon. Ernest, vous avez choisi le dessin. Notamment, il y a eu la photo, il y a eu les collages, les pochoirs. Mais le dessin, c'est quand même la base. Même si l'œuvre n'est pas le dessin, mais plutôt le lieu où vous allez l'exposer, ça on le sait. Mais le dessin, quand vous choisissez cela dans les années 60, j'imagine que c'est comme entrer en dissidence. Parce que le dessin, c'était toujours mal vu.
Oui.
Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais
toujours,
pendant des années...
va un peu mieux. Mais ouais, depuis quelques décennies, la nomenclature de l'art contemporain a été... méfiante, ou à mon avis, c'est un manque de culture, n'a pas vu la dimension conceptuelle du dessin. Ils ont perçu le dessin comme une chose réaliste au premier degré. Là, c'est vraiment une déficience.
Pourquoi vous aviez choisi, vous, le dessin, en sachant
parce que
cela?
Le dessin affirme des choses. Le dessin affirme l'humanité. Le dessin, vous savez, il n'y a pas de distance entre la pensée et la main. Et le dessin, c'est le signe humain. Vous voyez, je fais partie des rares privilégiés qui ont vu la grotte Chauvet. Voilà.
Oui, parce qu'aujourd'hui, elle est reconstituée.
Voilà,
ouais.
J'ai vu la grotte Chauvet.
Et
les dessins de la grotte Chauvet ou les dessins de Barcelo, c'est très proche, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que, je dis par rapport à la peinture, si, sur les 2000 ans qui nous concernent, disons, je prends des risques là.
Ah, oui,
si vous me montrez une peinture à 50 ans près, vous, moi, nous pouvons dire à peu près de quand elle date.
Ouais.
Pour le dessin, c'est pas ce qui se passe. J'ai exposé Musée Ingres. Vous pouvez glisser un dessin de Picasso, un dessin de Pontormo, un dessin... Vous voyez, je veux dire, le dessin, c'est un peu... C'est intemporel. C'est un signe intemporel. Et il y a une fragilité, parce que le dessin ne dit pas seulement ce qu'il montre. dans le dessin, il y a l'interrogation. Il y a le dessin avec un E au milieu. Vous voyez, il y a le projet. Dessin porte ça.
Ah ouais, vous jouez même sur les mots.
Oui.
Mais de toute façon, tout votre travail est travaillé aussi et hanté par la littérature.
Parce que...
Parce
qu'il y a eu tellement de malentendus avec mon travail. Vous savez, les gens...
Le street art...
Voilà, où on prit le dessin comme l'œuvre. Comme si mes œuvres... Si je faisais une expo de dessin, je ne dessinerais pas comme je le fais pour la rue. Quoi. Mes dessins sont élaborés dans cette perspective de s'inscrire dans des lieux précis.
Dans des lieux précis qu'ils documentent d'une certaine façon.
Oui, ils le révèlent. C'est-à-dire que... avant de coller un endroit, j'y vais à toutes les heures de la journée, je sais comment la lumière va fonctionner dessus, je sais bien sûr la texture, la couleur, je sais comment l'espace autour. Et alors je sais tout ce qui se voit, je dis ça souvent, je fais une approche de peintre ou de sculpteur, mais surtout je travaille tout ce qui se voit pas, quoi. Vous voyez, je travaille l'histoire des lieux, leur charge, leur force symbolique, et mon image, elle naît de la conjonction de ces deux choses, ce qui se voit, ce qui se voit pas.
J'aimerais revenir sur votre parcours, parce que tout à l'heure, avec Amos Gitaï, on parlait du fait qu'au départ, il se destinait à être architecte, et puis le cinéma a fait son entrée dans son parcours. Vous-même, au début, vous vouliez être coureur cycliste, professionnel.
Ouais, j'ai essayé, mais comme le foot. C'est-à-dire que moi,
sportif.
Dans ma famille, il n'y avait pas de livre. J'ai interrogé mes frères et sœurs récemment. Aucun ne se souvient qu'il y ait un livre à la maison, quoi. Mais on avait une vraie culture qui était le sport. Vous voyez, vraiment. Et moi, j'ai un frère qui a 82 ans, il entraîne toujours une salle de musculation, vous voyez, en ce moment.
Ah oui, c'est vraiment de famille. Oui, ouais. Mais vous-même, vous avez l'air particulièrement en forme.
Heureusement, je dessinais, j'étais pas assez bon ni au vélo ni au foot.
Et vous dessiniez quoi au tout départ?
Au départ.
Pour vous.
Déjà, quand vous savez qu'on est dans une famille qui n'a pas cette culture cultivée, j'étais un peu habile, quoi. À l'école, on trouvait que j'ai dessiné mieux. Donc, je disais dessiner la fontaine de mon village ou des choses comme ça. Et j'ai eu une révélation dans un numéro de Paris Match. J'ai raconté ça dans une autre émission de radio il y a 10 ans, un auditeur m'a envoyé le numéro. Donc c'est un août 54.
Donc c'est pas la peine de le faire, il l'a déjà le numéro.
Voilà, je l'ai gardé.
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Un août 54, un numéro de Paris Match. Donc j'étais en vacances dans l'arrière-pays de Nice, dans le petit village de ma famille. Et je découvre les déclinaisons de Picasso sur les portraits de silhouette. Vous voyez? Cette liberté incroyable, 30 portraits différents traités avec voilà, pour moi vraiment c'est une révélation, parce que jusque là je dessinais un peu comme des cartes postales, vous voyez, quand on essaie de s'appliquer, quand on connaît pas la peinture. Et là, Picasso, pour moi, c'est depuis toujours la référence, quoi, vraiment.
Alors, ce qui est bizarre quand même dans ce parcours, Ernest Pignon-Ernest, c'est que vous êtes né près de Nice, hein, c'est ça, vous êtes niçois.
Je suis né à Nice, voilà, même, oui, je suis né à Nice.
Niçois, et pourtant, vous êtes peu intervenu dans cette ville. Vous êtes allé du côté de Naples, qui est presque l'équivalent, mais en Italie, mais à Nice, très peu de choses.
Vous avez raison.
Ouais, très peu de choses.
C'était très difficile. J'avais du mal avec ma ville. D'abord, peut-être parce que je la connais trop. J'avais besoin de distance.
Politiquement, peut-être que vous n'étiez pas non plus...
Politiquement, j'étais...
Pas tellement médecin,
encore,
quoi.
Vous savez, Nice, c'est pas l'image que l'on en a depuis à Paris.
Non, mais il y avait Jacques Médecin pendant des années, quand même.
Oui, mais dans mon quartier, de 1936 jusqu'à ce qu'il meure, j'avais un député communiste. De 36 jusqu'à sa mort.
Il est devenu c'est vrai qu'on ne pense jamais à ça.
Il est devenu doyen de l'Assemblée nationale. J'ai même fait ses affiches en 68. Vous voyez, non, Nice, c'est pas Cannes même. Vous voyez, Nice, il y a des vrais quartiers populaires. Il fut un temps, sur les 6 députés, il y avait 3 communistes. Tout le tour, la périphérie. C'est plus le cas maintenant, c'est vrai. Donc, moi, j'aime beaucoup Nice, hein, quand même. Nice, vous savez, c'est la ville Garibaldi, de Blanqui, il y a eu Apollinaire, il y a eu Romain Gary.
Il y a eu aussi toute une école dans l'art, hein.
Voilà,
Armand, César.
Armand, César, Marcel Reiss, Malaval. C'est très riche. En riant, il y a quelques jours, j'ai dit que c'est incroyable, cette ville. On a une propension à produire des artistes et des grands gardiens de but.
Parce que c'est la même chose.
Le Reiss, c'est niçois aussi, vous savez.
Exactement. Vous restez avec nous tout de suite, Ernest Pignon-Ernest, parce qu'il va être question de faire votre questionnaire 100% France Inter.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous. Ça, c'est normal.
Mais tellement rare aujourd'hui.
Alors, le questionnaire 100% France Inter, rien que pour vous, Ernest Pignon-Ernest, ce sont des questions des stars de la chaîne, des questions qui ont déjà été posées par ces personnes-là. Mais comme on est écolo, on les recycle. 3 questionnaires pour vous. Vous choisissez le vôtre avec des titres qui sont en écho avec vos expositions. Ecce Homo, Trait de génie ou Derrière la vitre. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous n'êtes pas l'homme des choix. Pardon.
Non, moi je doute tout le temps.
Ben, manifestement.
Derrière la vitre.
Derrière la vitre. Première question, Edouard Baird pour vous.
Vous avez tweeté récemment. Vous avez Instagrammé, LinkedIné. Quels sont vos vices?
J'en ai pas entendu.
Vous avez Instagrammé, vous linké, vous êtes sur Internet, vous êtes sur les réseaux sociaux?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Pas du tout. J'ai un peu de mal. J'ai un truc Facebook. C'est ma compagne qui le rédige. Je l'ai même pas regardé depuis un mois.
Ça ne vous intéresse pas du tout.
J'ai tort probablement parce que j'ai comme le malentendu qu'il y a autour du street art, si on peut en parler un peu,
ouais.
Fait que j'ai beaucoup de gens très jeunes qui s'intéressent à mon travail, qui me disent ils sont Instagram, tout ça. Je devrais un peu plus quoi, mais il faudrait que je m'y plonge. Ouais.
Street art, pionnier du street art, ça vous va pas comme parce que c'est devenu, mais.
Ouais.
Vous étiez quand même d'abord, un des premiers à intervenir.
D'abord, tout le temps, le vocable anglo-saxon m'agace.
D'accord.
Vous voyez, je veux dire, c'est parce que...
Mais art de rue, c'est autre chose. Hein,
implicitement, ça laisse entendre que c'est un truc qui vient des États-Unis encore une fois.
Tout à fait.
Alors que je l'ai fait... Moi, je suis intervenu plus de 20 ans avant Keith Haring, ou... Vous voyez, je veux dire. Et tout le temps, il y a cette tension-là. Récemment, il y a eu un film sur JR,
ouais.
De Serge Julie. Serge Julie dit ce mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 80. Alors qu'il m'avait interviewé quelques jours avant, vous voyez, je veux dire,
il y a cette
mentalité de coloniser, ouais, quand même, elle est, voilà. Donc, street art. Littéralement, moi, en effet, j'essaie de faire de la, dans un de ses récents livres, pardon, je fais une parenthèse, Régis Debray dit, les gens du street art font de la rue une galerie, Ernest en fait une œuvre d'art.
Et bien voilà, ben, tout est résumé.
Je n'ai jamais pensé que j'exposais des dessins dans la rue.
Non.
J'essaie de travailler la rue. La présence de mon image fait de la rue un espace plastique et poétique, quoi, vous voyez?
Deuxième question, Alexandra Ben Saïd.
Notre-Dame ravagée par un incendie. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous?
Ah ouais, ouais, ça, vraiment, j'étais assez bouleversé, ouais, parce que vous pouvez le constater, tout mon travail vise à prendre en compte l'histoire. Je fais en sorte que les sensations qu'ont les gens quand ils rencontrent mes images soient inséparables de l'ancien contexte du lieu. Voilà. Et là, c'est notre histoire, quoi. Vraiment, j'étais vraiment un choc physique comme ça touchait des parents, quoi. Vous voyez, comme une émotion, ouais, de cet ordre-là. Vraiment.
Troisième question pour vous, Antoine Decaune.
Les ados disent souvent, je suis au bout de ma life. Alors c'est curieux d'être à la fin de sa vie, à 16 ans, mais question à la Mireille Dumas, étiez-vous ce genre d'ado?
Quel genre d'ado étiez-vous? Quel genre d'adolescent étiez-vous, Ernest Pignon, Ernest?
Ouais. Bon, mon adolescence est très, très marquée par ce désir du sport, quoi. J'ai fait toutes les compétitions possibles et imaginables. Ouais. Vraiment, ouais, c'était ça. Du coup, vous voyez, je filmais pas parce que je faisais de la plongée.
Vous ne buviez pas parce que vous faisiez du foot. Ah, vous buviez parce que vous faisiez du foot.
Bah ouais, quand même, faut pas exagérer. Parce qu'il faut pas. Mais j'ai été très marqué par ça. Ouais, ouais, perspective du sport. Puis ça basculait, c'est la découverte de la culture, quoi. Vous voyez, un copain à 18 ans me fait découvrir, on monte fin de partie de Beckett, vous voyez, on avait 18 ans, ça a été pour moi une révélation.
La révélation, elle se poursuivra à partir du 29 juin jusqu'en février 2020 à la Grande Chapelle au Palais des Papes à Avignon. Le titre de l'exposition, il vous concerne, Ecce Homo.
Voilà, je peux dire un mot?
Oui.
Tous mes travaux reposent sur le lieu, les moments où j'interviens, hein. Et donc je ne veux pas faire semblant de reconstituer. L'exposition, c'est vraiment l'exposé d'une démarche, d'un processus de travail, d'une recherche, vous voyez. Je vais mettre tous les dessins préparatoires, même des études sur des thèmes pour lesquels j'ai pas réussi à faire les images dans la rue.
Ah oui,
vous voyez, je vais montrer l'exposition, ça sera la conception et la réalisation, faire participer les gens à ce processus, à cette... Ouais, c'est l'exposé d'une démarche, l'expo.
Merci à vous. Merci à Annette Pignon-Ernest.
Merci à vous.
Yeah.
Moudbira, un extrait de Beiti Fi Razi, Ma maison est dans ma tête, ça c'est en français, c'est le nouvel album d'Awa. Le NRV, première partie, vous l'avez compris, eh bien c'est fini. Mais on se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Elles jouent bien les Françaises, elles sont sur leur nuage avec le troisième pour rejoindre le sommet.
Coupe du monde de foot, coup franc pour les femmes, le rendez-vous est pris, ben, j'espère, oui. À tout de suite.